radio, tu fais la différence. Radio Libre, la radio, tu fais la différence.
Bonsoir et bienvenue dans notre live de ce mercredi 15 janvier 2025. Un grand merci pour vos précieux dons qui nous aident beaucoup à poursuivre nos activités radiophoniques libres. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de nos chroniqueurs Charlie et Amaël, mais également avec une invitée de marque qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette émission, Madame Chascan.
Merci beaucoup Pascal. Pascal qui s'occupe de la technique et c'est grâce à lui que vous entendez ce stream, que ce soit sur l'app mobile ou sur le site internet. On va vous parler ce soir des vaccins contre la poliomyélite. Là, ça va être une soirée un peu conférence. Jusqu'à présent, on a eu des invités, on explorait un peu qui ils étaient derrière le personnage public. Et là, Chascan va nous faire plutôt une conférence sur ce qu'elle sait, car elle a une expertise assez grande sur ces questions-là, et probablement que vous allez l'entendre à plusieurs reprises cette année sur les ondes de Radio Libre. Alors, pourquoi on le fait Radio Libre? Eh ben, Radio Libre, c'est aussi toute cette information manquante. On a une population qui est quand même assez peu informée sur les risques concernant les vaccins. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que les vaccins, c'est comme les médicaments. On peut pas être pour, on peut pas être contre. C'est que chaque vaccin, comme chaque médicament, est complètement différent. On demande une approche complètement différente sur les risques, l'application, l'usage, l'expérience, les statistiques. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le parti d'explorer un vaccin après l'autre. Et là, on prend un vaccin qui est quand même assez connu et puis qui a des décennies d'utilisation derrière lui. Alors, notre invité de la soirée, vous l'avez peut-être déjà entendu sur les ondes de Radio Libre. Il y a quelques mois, on l'avait invité. Chascan a débuté sa quête donc vers une meilleure santé il y a une vingtaine d'années. Donc, elle est dotée d'un esprit critique. Elle est passionnée par la santé et la science. Elle a complété sa formation par des certifications et des cours en nutrition, marketing, communication, anatomie et physiologie, immunobiologie et vaccinologie. Rien que ça. Sa démarche est motivée par le fait que les séances d'information officielles, notamment celles données dans les écoles, omettent d'aborder la question des risques et des effets indésirables, en plus d'être bien souvent sponsorisées par l'industrie pharmaceutique, donc aussi dans le milieu universitaire. Donc pour contrer cette prépondérance des milieux pharmaceutiques, elle a organisé des séances d'information pour la population. Elle a en 2021 publié un livre sur les virus. Elle prépare actuellement la sortie prochaine d'un livre sur l'histoire des vaccins et de l'industrie pharmaceutique, préfacé par le docteur Pierre Cory, américain. Et elle est aussi nouvellement présidente et cofondatrice de l'association Romande Réinfo Santé Suisse Internationale, dont elle a rédigé une grande partie du contenu du site internet. Je te souhaite la bienvenue, Chaz.
Ben merci beaucoup de m'avoir invité et merci encore pour l'opportunité de pouvoir partager mes expériences et connaissances sur les vaccins et notamment là sur le vaccin contre la poliomyélite. Je vais démarrer plutôt avec les vaccins qui sont disponibles en Suisse. Donc, à savoir que la poliomyélite en tant que vaccin toute seule n'existe pas. Elle est toujours combinée, donc soit avec l'Infanrix, qui est le diphtérie, tétanos, la coqueluche. Il y a aussi des versions avec le HIB et même des versions avec l'hépatite B. Mais actuellement, les vaccins sur le marché suisse, il n'y a pas la poliomyélite toute seule. Donc, en Suisse, le vaccin contre la poliomyélite est recommandé, donc, on sait très bien, 2 mois, 4 mois, 12 mois, et encore entre 4 et 7 ans. Et souvent, il y a aussi, on est souvent recommandé de prendre des boosters, dans la vie adulte. Ce qui est intéressant de savoir avec ce vaccin, donc, contre la polio, c'est qu'il y a eu 2 versions. Donc, si je plonge dans l'histoire maintenant de où vient ce vaccin, c'était initialement on parle de Salk, donc Jonas Salk qui a créé le vaccin en 1954 aux États-Unis et puis qui a été exporté vers la Suisse assez rapidement en 56 quand il a été lancé dans le monde entier. Et depuis, on a vu qu'il y avait des problèmes avec ce vaccin-là et puis donc du coup, ça a été switché en 62 en Suisse pour la version orale vivant. Donc la version de Salk était inactivée et la version de Sabin, donc Albert Sabin, qu'on a utilisé à partir de 1962, c'était la version orale vivant et c'est la version qu'on utilise encore dans les pays en voie de développement. Mais depuis 2004, il n'y a que la version inactivée qui est disponible en Suisse, malgré le fait que, bah, comme j'ai dit, les pays en voie de développement utilisent encore la version orale pour des questions de pratique et de prix.
Je voulais te demander, peut-être parlons aussi de la maladie. Hein, en quoi consiste la poliomyélite?
Alors, la poliomyélite de base, c'est une maladie neurologique. Donc, au début, il y avait beaucoup d'exploration de savoir exactement comment est-ce qu'on pouvait atteindre cette maladie. Donc, on a compris que c'était par la voie digestive, en fait, que ce qui était identifié comme un virus peut affecter donc la moelle épinière. Je m'excuse là avec la terminologie, mais j'ai tellement l'habitude de dire ça tout en anglais. Donc, c'était exactement une atrophie des cornes intérieures de la substance grise de la moelle épinière. Donc, la plupart des cas, c'est très important à savoir, la plupart des cas, ça se manifeste comme une simple grippe. Donc, il n'y a pas une paralysie qui est directement dans la plupart des cas. C'était vraiment même à l'époque, vraiment des cas rares où il y avait une paralysie qui persistait. Souvent, c'était une paralysie qui était transitoire et du coup, les gens qui avaient l'infection de ce qu'on appelle le poliomyélite ne posaient pas de problème à long terme. Mais il y avait un petit pourcentage, notamment des enfants, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle aussi la maladie paralysie infantile. Ça touchait plutôt les enfants à l'époque et encore maintenant dans les pays en voie de développement. Et si je prends directement ce que l'OFSP via Infovac va nous informer par rapport à cette maladie, juste citer exactement ce qui est marqué sur cette feuille bleue que je pense que la plupart des parents ils sont au courant. Donc la poliomyélite ou paralysie infantile est due à un virus qui est transmis par le contact avec des excréments ou en parenthèse mains souillées ou de l'eau contaminée. Beaucoup de personnes attrapent cette infection sans le savoir. Comme je vous ai dit, beaucoup de maladies sont sans symptômes à part une petite grippe. Chez environ 1% des personnes infectées, la maladie cause une paralysie douloureuse et souvent irréversible. Donc là, la notion que ça peut être une paralysie transitoire. Avant que ce vaccin n'existe, il était fréquent de coucher un enfant en pleine forme le soir et de le retrouver paralysé à vie le lendemain. Ça, c'est ce qui est marqué dans le document de l'OFSP. Ces paralysies touchent les bras et les jambes. Si le virus de la poliomyélite attaque le cerveau, le centre de contrôle des voies respiratoires ou la circulation sanguine, la maladie évolue alors vers la mort dans 2 à 6 cas sur 10. Il n'existe aucun médicament pour traiter une poliomyélite et grâce à la vaccination systématique, aucun cas de paralysie infantile n'a été enregistré en Suisse depuis 1981. Le virus circule malheureusement encore toujours dans différentes régions du monde. Donc ça, c'est l'explication qui est donnée par l'OFSP. Maintenant, c'est très simplifié, comme on peut imaginer. Si on va dans l'histoire, on va voir qu'en fait, il y avait déjà des traitements qui existaient à l'époque, mais qui n'étaient pas mis en avant pour des raisons qu'on peut imaginer. Puis le dernier cas de paralysie infantile est enregistré en Suisse en 1982, et la dernière mort, c'était en 1981. Donc, on a toujours ces images de ces respiratoires en fer, les enfants avec les béquilles. Donc, c'était vraiment une toute petite pourcentage des enfants qui étaient touchés par une paralysie donc permanente. Et à savoir qu'à l'époque où cette maladie a survenu, donc le premier rapport qu'on a, c'était en 1834 dans une île totalement isolée en Atlantique, donc Sainte-Hélène. C'était la première épidémie qui a été déclarée officiellement dans les documentations médicaux. Après, il y a eu en 1840, donc c'est Jakob Heine qui a fait qui a donné le titre de paralysie infantile. Et la première épidémie conséquente, c'était aux USA en 1894 à Vermont avec 18 décès et 132 paralysies. Et en Suisse, nous, on a commencé à enregistrer les décès suite à un poliomyélite en 1901 et les cas en 1913. Et en Suisse, les années épidémiques, c'était 1936 et 1937. Et le pire était 1944. Donc, on a eu 224 décès et 1793 cas. Donc, en 1944 en Suisse. Donc, ça, c'était vraiment le pic épidémique. Le polio, c'est intéressant à savoir que c'est très différent des maladies infantiles typiques comme la diphtérie ou la coqueluche ou la rougeole. Quand on regarde les statistiques historiques, on voit vraiment qu'il y a eu vraiment beaucoup de cas et beaucoup de décès. Et puis, ça descendait à partir du début du 20e siècle. Mais la poliomyélite, c'est un peu, c'est sorti de nulle part, si on veut. Et il n'y a pas eu de cas. Puis, soudain, il y a eu des pics en 1936-37 et en 1944. Et ça, c'était un peu le cas pour, y compris les États-Unis, pour la Suède, qui a aussi enregistré un des premières épidémies. Et à l'époque où il y a eu ces épidémies, il y avait plusieurs scientifiques, et ça, de nouveau, j'ai retrouvé dans les documentations de l'époque, qui ont posé la question sur est-ce que c'était vraiment à cause d'un virus, est-ce que c'était vraiment une maladie contagieuse, ou est-ce que c'était une intoxication aux pesticides, qui était très répandue à l'époque, sans qu'on sache vraiment les impacts neurologiques sur les personnes. Donc ça, c'était un thématique qu'on retrouve, quand on regarde toute la documentation historique de la poliomyélite, ça revient souvent. Donc par rapport au DDT, par rapport à quelque chose qui s'appelait du Paris Green, donc Paris Vert, qui était un colorant à base d'arsenic, qui était au début utilisé pour peindre les murs parce que ça faisait une magnifique couleur. Puis après, on a quand même compris que ça avait des vertus anti-insectes. Donc on a utilisé, on a répandu sur les crops, sur les récoltes, sur les framboises, sur les fraises, etc. Et il y a eu une questionnement que si ce n'était pas à cause de ces résidus qui restaient sur la nourriture qui faisaient que les enfants spécialement, qui étaient plus fragiles, vu qu'ils n'avaient pas un système immunitaire aussi développé qu'un adulte, avaient des problèmes neurologiques à cause de cet insecticide. Et je ne sais pas si vous vous rappelez un peu aussi de l'époque, dans les années 40-50, des images des enfants sur la plage ou des enfants à la piscine qui étaient mais totalement nuagés avec des nuages de DDT et puis d'autres insecticides, parce qu'à l'époque, on pensait que peut-être la poliomyélite était à cause d'un moustique ou d'un autre insecte, et puis on voulait absolument essayer de faire tout pour prévenir. Du coup, c'est possible que même à l'époque, la prévention a empiré. C'était aussi une maladie qui était plus vue en été qu'en hiver. Donc voilà, il y a eu beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on a vraiment isolé le virus de la poliomyélite, est-ce qu'on a prouvé qu'il a causé une maladie, et est-ce qu'on a regardé vraiment d'une manière approfondie sur les autres facteurs possibles. Maintenant, à savoir, DDT a été interdit à partir de 1972, et puis il y a d'autres insecticides, dont, si je regarde la traduction, l'arsenia de plomb, si je dis juste, a largement remplacé le Paris Green, mais ça aussi, ça a eu des problèmes. Mais gentiment, avec heureusement l'édition de Rachel Carson en 1962, donc en anglais c'était Silent Spring, donc printemps silencieux en français, qui a relevé les nombreux problèmes avec des insecticides qu'on utilisait à l'époque sur la nature. Et ben forcément sur les oiseaux, les insectes, elle n'est pas rentrée dans la matière de l'impact sur l'humain, mais maintenant on est tout à fait conscient de l'impact humain que ces pesticides, insecticides, neurotoxiques, peut avoir, spécialement sur les enfants.
Donc ça veut dire, Chas, si je comprends bien, qu'aujourd'hui peut-être qu'on vaccine toujours nos enfants pour une maladie dont on n'est pas certain du tout de l'origine.
Oui. Je dirais ça. Et je vais juste, excusez-moi, j'ai oublié de dire un petit truc au début. Mm-hmm. Je vais juste préciser que je parle de mon nom. Je parle pas au nom de Réinfos Santé, juste pour que ça soit très clair. Et puis, j'annonce que j'ai zéro conflit d'intérêt. Toutes mes recherches par rapport au vaccin, par rapport à ce sujet, je n'ai pas été payée. Je paye de ma poche. C'est mon intérêt personnel. Et je suis pas payée pour rechercher ce sujet. Donc, excuse, j'aurais dû commencer avec ça, mais j'avais juste envie de mentionner. Donc, tout à fait, le poliomyélite, on est tellement... C'est une de ces maladies, quand on parle des vaccins, typiquement, quand on questionne les vaccins, on va toujours revenir à dire, et le polio? Les vaccins, ils ont éradiqué le polio, non? Mm-hmm. Du coup, pour moi, c'était une des maladies que j'ai plongé le plus, parce que moi, je pensais aussi que les vaccins avaient éradiqué le polio, en tout cas dans les pays développés. C'est pas encore le cas dans les pays en voie de développement. Et puis, je suis sortie de ces recherches en me disant, en fait, on vaccine encore contre le polio en Suisse, en France, aux États-Unis, en fait, sans vraiment savoir quelle était cette maladie, puis de retourner un peu sur la science de l'époque, et puis de refaire une évaluation. Je dirais que ça mérite vraiment un débat conséquent, ce sujet de polio.
Et j'avais aussi entendu, mais peut-être que je prends un peu de l'avance, qu'il y avait plus actuellement de cas de polio vaccinal que de cas de polio naturel.
Est-ce que c'est vrai? Alors, ça, c'est le problème avec le vaccin qu'il est utilisé dans les pays en voie de développement. Donc, le OPV, OPV, donc l'oral, celui qui était conçu par Sabin à l'époque. Vu que c'est beaucoup plus facile à faire transporter et puis à donner dans les pays en voie de développement, en effet, on a constaté, parce que c'est vivant, il est possible de contaminer d'autres personnes. Par exemple, même l'OMS a tout à fait admis, ça s'appelle un vaccine-derived poliomyelitis, donc dérivé du vaccin. Ça, on est au courant de ce problème depuis que ce vaccin oral existe parce qu'elle est vivante. Donc, il y a toujours ce risque aussi pour les personnes. Par exemple, si vous avez un bébé qui est vacciné et puis vous, comme parent, vous changez les couches, il y a eu des cas d'infection secondaire par ces parents qui changeaient les couches et du coup, qui ont été exposés au virus, et puis qui sont tombés malades. Donc ça, c'était reporté dans les littératures scientifiques. Et en effet, c'est un vrai problème, jusqu'à un tel problème qu'ils ont conçu un nouveau vaccin oral poliomyelitis pour essayer de, en fait, diminuer ce risque. Parce qu'il y a aussi le risque de créer des nouvelles souches. Parce que la nature n'aime pas des vides. Du coup, si on crée un vaccin qui va traiter ou qui va cibler certaines souches, c'est un problème aussi qu'il y a avec d'autres vaccins. Il y a de nouvelles souches qui vont devenir plus importantes. Et ça, c'est ce qui a été assez bien perçu avec le vaccin oral. Et en effet, il y a eu plusieurs milliers de cas sur les années, particulièrement en Inde, où il y a eu une campagne de vaccination assez intense, où les enfants ils peuvent recevoir jusqu'à 8 doses, hein, même plus. Il y a eu des cas de poliomyélite suite au vaccin, mais c'est surtout ça touche au vaccin oral vivant. C'est moins le cas avec le vaccin inactivé qui est utilisé en Suisse, aux États-Unis, etc., dans les pays qui sont développés.
Dans ces pays qui sont en développement, est-ce qu'il y a toujours le problème de l'hygiène qui rentre en compte aussi quand on vaccine un enfant et qu'il n'a pas un bon système immunitaire parce que l'hygiène n'est pas au top? C'est problématique?
En fait, ça peut être problématique pour tous les vaccins, pas juste le vaccin contre le polio. Parce que c'est clair qu'après, sur le côté, on vaccine, on recommande de vacciner spécialement pour protéger ces enfants qui sont immunodéprimés à cause d'un manque de nutrition. Donc ça c'est quelque chose qui peut toucher tous les vaccins, pas seulement celui de la poliomyélite. Mais en fait, le polio, c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, dans les pays développés, on a vu que on voyait pas forcément plus de maladies dans par exemple, les familles qui étaient plus aisées, donc qui avaient plus de sanitation. Ça touchait les enfants des riches et puis des moins riches assez similairement. C'est pour ça qu'il y a eu cette question, en fait, si c'est pas une maladie infectieuse typique comme on a pu voir pour les autres, la rougeole, etc., où on a vu la sanitation a quand même eu un impact, le polio n'a pas vraiment obéi à ses règles, si on veut.
Chaz, est-ce que vous avez entendu parler en septembre dernier c'est le professeur Raoult, je crois, qui a mis le doigt sur ce virus de polio à Gaza, qui était aussi, d'après lui, un virus vaccinal et pas naturel?
Ben oui, c'est tout à fait possible. Après, moi, je ne peux pas me prononcer définitivement, bien sûr, sur ce qui était le cas, mais même l'OMS et leur Global Eradication Initiative pour le polio a admis que c'était un vrai problème. Et le vaccin qu'ils ont utilisé pour cette campagne de vaccination, où ils ont fait un cessez-feu pour pouvoir vacciner les enfants pendant la guerre, c'était un vaccin qui est conçu pour cibler c'est ce qu'ils appellent circulating vaccine-derived polio. Donc, c'était un type 2. Voilà, ils sont au courant du problème de ce vaccin oral qui peut générer des épidémies et des cas de polio en soi. Et il y a eu quand même beaucoup de discussions de remplacer le vaccin oral contre le même vaccin qu'on utilise dans les pays développés. Mais il y a un problème de logistique et de pratique vu qu'il y a quand même une chaîne de froid à respecter. C'est plus cher, c'est quand même plus désagréable parce que l'avantage avec un vaccin oral, c'est que c'est juste par la bouche. Il n'y a pas d'injection. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a beaucoup moins de logistique au niveau de transport de matière, de seringues stériles et tout le reste. Mais en effet, même si vous allez sur les informations, les communiqués de presse de l'OMS et de leur Global Eradication Initiative, ils sont conscients que où ils donnent le OPV, donc le virus du polio oral, vivant, qu'il y a ces problématiques. Ils sont tout à fait conscients. Donc, je n'ai pas plongé dans le document de Raoult, mais c'est tout à fait juste.
En sachant tout ce que vous venez de nous dire là, finalement, comment se poser la question correctement de savoir si ça vaut la peine de vacciner nos enfants ou pas contre la poliomyélite?
Alors, c'est important que les parents ou les adultes qui sont en train de songer à faire un booster ou pas, c'est poser des questions à votre médecin. Parce que moi, je peux vous dire, c'est important de lire la documentation déjà sur compendium.ch. Donc, je recommande vivement à tout le monde à mettre ce site dans leurs bookmarks. C'est le site qui met toutes les informations typiquement qu'on va trouver dans une notice d'emballage, donc les ingrédients, les effets indésirables, les contre-indications et tout ça. Et je vous recommande vivement de consulter ça avant que vous considérez à prendre n'importe quel vaccin, que ce soit le polio ou la rougeole, et de regarder vous-même qu'est-ce que vous pensez sur les risques. Maintenant, le problème avec le polio, c'est qu'on n'a plus trop de choix. Vu que c'est combiné avec d'autres vaccins, la plupart
Fait
des
partie du
vaccins de
lot.
base, voilà, il fait partie du lot. Si vous allez vous faire vacciner de base contre la coqueluche, la diphtérie, la tétanos, souvent le polio se retrouve déjà avec. Maintenant, c'est clair que dans les pays comme la Suisse, il y a quasi zéro risque d'attraper un polio. Et déjà, il y a un questionnement, c'est est-ce qu'on peut l'attraper, comme on imagine, comme une maladie infectieuse, telle que la rougeole ou une grippe. Mais je recommande que tout le monde va aller se poser la question et puis consulter ces documentations officielles qui viennent du coup du fabricant. Donc, par exemple, moi, je suis allée sur le compendium pour aller Vaxelis. Donc, Vaxelis, qui est nouveau 601 vaccin proposé par Sanofi, qui inclut la polio, y compris l'hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche et l'Hib, hémophilie influenzae. Je vous recommande de vivement regarder les effets indésirables et vous-même faire... Poser des questions suite à cette lecture, poser la question à votre médecin. Mais le problème là, c'est que c'est pas facile de l'éviter. Si on veut juste, par exemple, faire la tétanos, la diphtérie et la coqueluche, bah, vous avez, si je regarde maintenant sur le site de ViaVac, c'est aussi un site que je vous recommande vivement de regarder, viavac-service.ch ou infovac.ch, qui sont de nouveau les informations officielles du gouvernement. Et aussi avec la Commission fédérale pour les vaccinations, donc c'est eux qui font les recommandations pour la Suisse. C'est combiné avec les autres. Donc, si vous posez la question sur le vaccin contre le polio, d'office, vous allez forcément vous poser la question peut-être sur la diphtérie, sur la tétanos aussi.
Alors, consulter les documents, ça c'est une chose. Moi, je vous pose une question parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma première fille quand on a été chez le pédiatre et qu'on a décidé qu'on ne voulait pas vacciner nos enfants. Elle était outrée, horrifiée. Donc consulter son médecin, oui, mais quand il n'y a pas de dialogue possible, et c'est le cas, j'imagine, avec beaucoup de médecins, on peut faire la comparaison avec le Covid où... Les médecins, entre guillemets, ont vacciné pour pas avoir trop d'ennuis, alors qu'ils savaient qu'il y avait des effets indésirables. C'est difficile de parler avec son médecin.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'allais dire, si vous n'arrivez pas à avoir un dialogue avec votre médecin, changez de médecin. Votre médecin doit être votre partenaire dans vos décisions de santé, pas un directeur qui vous dit ce qu'il faut faire. Après, c'est chacun de choisir comment ils ont envie de gérer leur santé. Mais moi, je dirais que s'il n'y a pas de dialogue possible avec votre médecin, il faut pas rentrer en matière et puis simplement trouver un nouveau médecin. Mais ce que je peux dire, d'après mon expérience avec Réinfo Santé, c'est que les médecins eux-mêmes subissent beaucoup de pression à suivre la directive de la Commission fédérale pour les vaccinations. Ils sont protégés, entre guillemets, s'ils suivent les recommandations et ils peuvent être sanctionnés s'ils ne suivent pas. Par exemple, je donne un exemple, je vais chez le médecin, je lui pose des questions sur le polio, il me dit, ouais, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin, il n'y a pas de risque, etc. Donc, je vous recommande d'autres vaccins pour votre enfant, pour vous. Moi, je peux aller dénoncer au médecin cantonal. Et il suffit, un dénoncement, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai pas besoin de, je peux faire une dénonciation anonyme. Donc, le médecin n'a même pas la possibilité d'argumenter pour expliquer la situation. Et c'est ça qui souvent met les médecins bienveillants en garde. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des problèmes avec les médecins cantonaux, pour avoir des problèmes à après exercer le métier de médecin. Et ça, c'est malheureusement le cas pour tous les vaccins, y compris le vaccin Covid, comme on a pu voir ces derniers 4 ans. Et les médecins, malheureusement, ils n'ont pas de formation très détaillée sur les vaccins lorsqu'ils font leur formation en médecine. Moi, j'étais assez étonnée quand j'ai fait mes cours de vaccinologie donc à l'université de Oxford en 2019. J'étais assez choquée de découvrir que les médecins, ils passent pas de temps. C'est comme la nutrition d'ailleurs. Ils passent peut-être même pas une heure ou trois heures sur ce sujet. Ils ont très peu de temps aussi pour faire la lecture une fois qu'ils sont en cabinet en train de travailler. Donc, ils n'ont pas le temps, comme moi j'ai pu avoir, de plonger dans toute l'historique pour voir exactement ce qui s'est passé avec ce vaccin polio. Moi, j'ai découvert que dans les années 40, le polio était observé après les vaccins variole et la triple, là, le diphtérie, tétanos, coqueluche. Et ça, c'était reporté dans le Lancet, British Medical Journal, Journal of Hygiene, et puis d'autres revues de médecine très réputées.
Provocation, on se vaccinait polio. Et on attrapait la polio.
Voilà. Incroyable. C'était pas attrapé, je dirais que c'était pas une, c'était pas une question d'attraper. Voilà, déclencher un polio. Oui. Ça s'appelait un provocation polio. Okay. Et c'était connu dans les années 40, les années 50, que spécialement les vaccins triples avec l'aluminium étaient facteurs de déclencher ça. Maintenant, moi, j'ai jamais su ça il y a 10 ans. Donc, et puis, je pense que la plupart des médecins, ils vont pas aller plonger dans les documentations de 1940 pour aller regarder cet historique. Mais c'était un vrai problème. C'était reconnu par les autorités. Et leur solution, c'était d'essayer de réduire un peu la quantité d'aluminium, la quantité de aussi la mercure qu'il y avait à l'époque, qu'il y avait aussi dans le premier vaccin. Donc, il y a eu dans le premier vaccin qui était utilisé dans les essais cliniques. Donc, la mercure, mais ils l'ont enlevé quand ils ont mis le produit sur le marché. Donc, le produit commercialisé n'était pas la même que celui qu'on avait testé à l'époque, en 1954. Ça, c'est une autre chose. Et il n'y a jamais eu de placebo non plus. On parle de placebo comme étant quand même un facteur de base pour vérifier la sécurité de n'importe quel médicament. Ça, ce n'est malheureusement pas le cas avec les vaccins. Et ce n'est malheureusement pas le cas avec les nouveaux vaccins, même à l'époque, comme le polio, où le placebo était un médium nutritif, parce que tous les virus, ils ont besoin de cellules pour pouvoir être cultivés. Et le placebo, il n'était pas inactif à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une base de sécurité?
Là, c'est important de préciser pour les auditeurs, c'est que cette question de placebo, c'est quand on fait des tests sur un vaccin, on a un groupe qui reçoit le vaccin, et puis après, on a un autre groupe, on le lui dit pas, mais il va pas recevoir le vaccin, mais il va recevoir ce qu'on appelle un placebo. Alors, beaucoup de gens pensent que le placebo, justement, c'est juste de l'eau injectée, mais ce n'est pas le cas. Souvent, c'est tous les adjuvants du vaccin, donc l'aluminium, peut-être ses dérivés du mercure, qui sont quand même injectés à la personne, donc qui créent aussi des effets indésirables. Et puis après, donc, cette manière de faire est un peu malhonnête parce qu'en fait, ça réduit la différence entre les deux groupes. Donc, on a un groupe qui est quand même un petit peu vacciné, mais sans la partie active du vaccin. Et ouais, ça, c'est super important de le préciser. Et puis, je voulais revenir aussi peut-être sur la formation des médecins. Effectivement, je crois qu'en Suisse, c'est même une seule journée sur 6 ans d'études, par rapport à la vaccination. Et il y a 10 ans, je m'étais retrouvé dans un débat sur une télé régionale face à un médecin de ville. Et malgré le fait que je ne suis pas du tout médecin, il a admis que je connaissais mieux que lui les statistiques, les chiffres et la recherche autour des vaccins contre la grippe. Et lui, en fait, son credo, c'était plutôt « je fais confiance aux autorités sanitaires ». Et puis c'est comme ça que je travaille. Voilà. Donc, on voit effectivement qu'on donne beaucoup de crédit aux médecins sur leur connaissance sur les vaccins, mais que si on gratte un petit peu et du côté de leurs études et aussi du niveau de comment ils réagissent et de quelle confiance ils ont, et ben voilà. Et j'ai aussi des amis qui ont fini médecins, aussi pédiatres, et dans leur cabinet, ils reçoivent le plan vaccinal complet en poster qu'ils peuvent afficher et c'est sponsorisé par les pharma. Il y a très peu justement de contre-information là-dessus et puis d'une vision un peu critique comme tu nous la présentes ce soir. Voilà.
Tout à fait. Puis ils n'apprennent absolument rien sur l'historique des vaccins. Et je veux dire, même les formations continues, par exemple, le fameux VAC Update, qui est quand même reconnu par la Société suisse des pédiatres comme formation continue pour les médecins, les pédiatres sur les vaccins, c'est sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a zéro intérêt, en fait, je dirais, là où il y a, je dirais, carrément dans la salle, il y a toutes les boîtes pharmaceutiques qui ont leur table de présentation avec leur représentant local à l'arrière de la salle. C'est malheureusement très prise, je dirais, toute l'éducation sur les vaccins par l'industrie pharmaceutique, qui est dommage. Mais ça, on voit, c'est un problème avec tous les médicaments, c'est pas juste uniquement les vaccins et pas uniquement le vaccin contre le polio. Mais tiens, préciser aussi ce qui est spécifique et unique au polio, en tout cas à ma connaissance, c'est quand le vaccin est sorti en 1956, donc il y a eu les essais hein, de 1954 à 1956, avec beaucoup de extravaganza médiatique, j'ai envie de dire. C'était un des premiers vaccins autant médiatisés dans le monde, même pas la variole a eu autant de médias dessus. Ils ont changé la définition de ce que c'était un polio quand le vaccin est sorti. Et de changer cette définition de ce que c'est un polio, et ça s'applique pour n'importe quelle maladie, ça va automatiquement affecter les statistiques qui sortent après. Donc même sans aucun vaccin sur le marché, le fait qu'ils avaient changé les statistiques, donc c'est l'OMS qui a changé les statistiques aussi avec les autorités américaines, ils ont changé le timing qui était considéré comme un paralysie par poliomyélite. Sans vaccin, il y avait déjà une réduction de cas à cause de ce changement de définition. Et ça, je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'en fait, si vous changez une définition de maladie quand le vaccin sort, ben le vaccin va prendre tout le bénéfice de ce qui est perçu comme une réduction de cas, mais en fait, c'est à cause d'une rechange, de changer la terminologie. Dans le cas de polio, c'était le timing qui était pris en compte. Donc au début, pour avoir une poliomyélite paralytique, il fallait avoir une paralysie pendant 24 heures. Après, ça a été prolongé pour au moins 60 jours. Du coup, juste ça, toute seule, ça a changé, fait une réduction des cas. Et j'ai l'impression que c'est aussi le même cas avec la rougeole, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que ça mérite une conversation à lui toute seule. Mais c'est un vrai problème. Et puis, pour moi, ça montre quand même une certaine... on a envie de mettre en valeur le vaccin pour que les gens l'acceptent, que les gens pensent que oui, c'est le vaccin qui nous a sauvé cette maladie. Mais en fait, si vous regardez, puis ça, à nouveau, si normalement, quand je fais les présentations présentielles, bah, je vous montre le document où il y a cette information qui est écrite noir sur blanc, que l'OMS a changé. Moi, j'avais entendu parler de ça dans un livre que je recommande vivement d'ailleurs. Si vous aimeriez plonger dans l'historique des vaccins, y compris la variole et la rougeole, le livre de Dr. Suzanne Humphreys, qui était traduit en français, qui s'appelle « Vaccination, la grande désillusion », elle parlait de ça, mais moi, j'avais envie de trouver, en fait, la source d'origine. Donc, je veux vraiment trouver, mais ils ont vraiment changé cette définition, parce que je me base pas juste sur ce que quelqu'un va écrire dans un livre. Et en effet, quand j'ai trouvé ça, j'étais scotché. Parce que j'ai réalisé que c'est un peu, j'ai pas envie de dire malveillant, mais...
Malhonnête.
C'est un peu malhonnête. Parce que si vous avez de la confiance dans votre vaccin, pourquoi vous avez besoin de changer soudain les critères de définition d'une diagnostic?
Et de 24 heures à 60 jours, c'est quand même énorme. Ben
voilà. Et voilà. Et puis, de nouveau, comme je vous ai dit, la paralysie permanente a été vraiment une conséquence très, très, très rare d'un polio. Dans la plupart des cas, c'était vraiment comme la grippe. Des fois, il y avait une paralysie temporaire. Mais c'était vraiment... On pourrait penser... Dans l'idée des gens, ils pensent que le polio était vraiment quelque chose de dangereux, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient affectés. Mais en fait, quand on regarde vraiment de loin... on voit que c'est un petit pourcentage. Et en plus, on ne parle pas de ce petit pourcentage des enfants qui ont reçu une diagnostic de poliomyélite paralysie suite à un vaccin contre la variole ou contre la diphtérie tétanos coqueluche. DTP en France, en anglais, pardon, c'est P, c'est pour la coqueluche, pas pour la polio. Donc, et l'autre chose que moi, j'ai appris, et puis je me suis dit, tiens, 1944 en Suisse, quand on a eu la plus grande épidémie de poliomyélite, donc 224 décès, principalement les enfants, et 1793 cas, c'était dans l'année où on a une obligation vaccinale, d'ailleurs la dernière obligation vaccinale en Suisse, contre la variole qui a ciblé les enfants de moins de 5 ans. Maintenant, j'ai essayé de trouver exactement quand est-ce que les cas ont été... rapporté pour voir est-ce que c'était avant ou après la vaccination contre la variole. C'est difficile de trouver, je ne peux pas me prononcer définitivement, mais j'ai dit tiens, sachant qu'il y avait des documentations, il y avait de la documentation médicale qui relayait le problème de la polio suite à un vaccin variolique. Et là, en 1944, on a cette obligation vaccinale sur les enfants. Et tiens, c'est l'année de... c'est l'année où on a le plus de cas et d'essais en Suisse. Et ça, d'ailleurs, on n'a jamais dépassé ce montant. Donc, si je regarde les statistiques, les dernières fois où on a eu des morts dans les deux chiffres, je dirais, c'est 1970, on a eu 17 morts. Et depuis, il y a eu 5 décès depuis. Et les cas, c'est encore moins. Donc, pourquoi est-ce qu'on vaccine encore cette maladie aujourd'hui en Suisse? je pense que ça mérite vraiment un débat avec des gens de l'OFSP, la Commission fédérale pour les vaccinations. Mais c'est tellement inculqué dans l'esprit des gens et tellement intégré dans le plan vaccinal. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas l'option de prendre le polio toute seule. Maintenant, elle n'existe plus toute seule. Que c'est juste, bah, les parents, ils ne vont même pas y réfléchir. Ça va avec le reste. Si vous aimeriez un tétanos, bah, forcément, c'est fort possible qu'il y ait un polio avec. Et voilà, donc ça mérite un débat. Et je vous recommande aussi vivement le livre donc, de Dr. Michel de Longueril, qui a fait toute une série de petits livres très digestes sur les vaccins d'une manière générale. Et puis lui, il parle des vaccins du nourrisson. Donc c'est la série numéro 3, sauf erreur, où il fait aussi une petite synthèse sur l'historique et la science actuelle sur le poliomyélite. Et puis la question, est-ce qu'il mérite encore de vacciner contre cette maladie?
Alors, on voit que l'histoire de la poliomyélite, c'est très complexe. En parlant du vaccin, est-ce qu'il y a des effets secondaires connus, Chaskan?
Alors, pour le vaccin contre la poliomyélite, c'est intéressant que vous me posiez la question. Parce qu'au début, je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui s'appelle le Carter Incident. Donc, c'était en 1956, de nouveau, quand ils ont sorti le vaccin. Donc, il y avait quatre, sauf erreur, fabricants des États-Unis, dont Eli Lilly, Cutter et Conant, qui est aujourd'hui Sanofi, qui ont produit ce vaccin. Et il y a eu des problèmes dans l'inactivation. Et c'est Cutter qui a pris, qui a été mis responsable. Mais il y avait plusieurs marques, en fait, qui étaient touchées. C'était pas juste Cutter, mais publiquement, Cutter, c'est le seul fabricant dont on a parlé. Il y a eu 200 décès et plusieurs milliers de cas de polio suite à ce vaccin inactivé. Donc, pas celui qui est vivant. Pour les autres, il y a d'ailleurs un médecin très connu qui avait vacciné publiquement ses petits-enfants. Il y a un qui est décédé. Et c'est une des raisons pour laquelle ils ont switché pour tourner sur le vaccin du sabin, donc l'oral vivant, en 62. Maintenant, pour les effets secondaires du vaccin actuel, maintenant, il faut que vous regardez les vaccins combinés parce que, comme je vous ai dit, le polio n'existe plus tout seul. Donc, par exemple, si je suis sur la page de Vaxelis, qui est un vaccin assez nouveau, c'est un vaccin, sauf erreur, qui a été approuvé par Swissmedic en 2018, sauf erreur. Et là, vous pouvez regarder sur les effets indésirables. Ben, vous avez toujours typiquement ce qui est fréquent, hein, rhinite, lymphodymphanie, diminution de l'appétit, troubles du sommeil, insomnie, agitation, très fréquent, somnolence, occasionnelle hypotension, occasionnelle pâleur, occasionnelle toux. Vomissement très fréquent, diarrhée, douleur abdominale, éruption, pleurs, irritabilité. Et il y a pas mal d'effets secondaires qui sont notés. Après, dans ce qui est de nouveau une problématique avec ces vaccins combinés, c'est très difficile d'identifier quelle partie de ce vaccin a causé le problème. Donc, c'est un peu, ça noie le truc. Donc, quand, par exemple, si vous avez un effet secondaire avec Vaxelis, par exemple, et vous allez contacter Swissmedic, c'est plus ou moins impossible pour eux de dire quelle était la valence ou quelle était la souche qui a causé l'effet secondaire. Et c'est ça qui est problématique maintenant avec les vaccins combinés. Mais il y a aussi des problèmes de, comme je dis, ça peut créer des problèmes neurologiques, ça peut créer d'autres problèmes auto-immunitaires, mais est-ce que c'est à cause de la valence polio ou est-ce que c'est à cause d'autres choses? Est-ce que c'est à cause de l'aluminium? Est-ce que c'est à cause d'autres ingrédients? Et ça, c'est où il nous manque la visibilité. Et c'est là où je demande vivement qu'il y ait un débat, mais aussi que l'État suisse et les États du monde réinvestissent pour analyser vraiment les produits qui sont sur le marché actuellement, voir vraiment leurs bénéfices en comparant avec une vraie placebo. Parce que Vaxelis n'a jamais été comparé avec un vrai placebo. L'argumentation est que ça fait longtemps qu'on utilise tous les vaccins qui sont incorporés dans le Vaxelis, donc ça serait inéthique, pas éthique, de faire un nouveau essai clinique où des enfants recevraient un placebo, parce qu'on estimerait qu'ils ne sont pas protégés. Et il y a plein d'éléments scientifiques qui sont à remise on the drawing table, comme ils disent en anglais, de remettre vraiment...
L'ouvrage sur le métier.
Voilà, merci. Donc, mais les effets secondaires, de nouveau, il y en a tellement qui ne sont même pas associés avec le vaccin parce qu'ils surviennent 4 semaines après le vaccin. Mais la chose qui est plus connue et admise, c'est forcément la fièvre qui induce que c'est dur au site d'injection. qu'on a un peu d'inflammation, que peut-être on est un peu nausée. Mais ça va plus loin que ça. Mais malheureusement, c'est très difficile de pouvoir identifier quelle maladie dont le vaccin est responsable de quels effets secondaires. Ils sont noyés. Et l'assurance santé, bien sûr, bah, eux, ils prennent un coup toutes les effets secondaires. Si vous allez chez médecin parce que vous avez la fièvre, ou même si vous allez à l'hôpital parce que vous avez une fièvre, puis votre enfant a besoin d'être hospitalisé, les frais, ils sont absorbés par les assurances de santé. Donc ça aussi, on n'a pas une visibilité de voir bah, quels sont les frais qui sont suite à une conséquence vaccinale. Ça, on n'a pas ces infos. Donc au moins avec le vaccin COVID.
Rappelle-nous aussi, au niveau des effets indésirables, quel pourcentage d'entre eux sont remontés aux autorités pour ensuite calculer le bénéfice-risque?
Alors ça, c'est le grand problème. Si les gens n'annoncent pas, ce qui est malheureusement le cas, principalement, Swissmedic a sorti un document interne en septembre 2020, avant qu'ils aient sorti et validé le vaccin contre le COVID, en admettant que d'une manière générale, on annonce que 10% des effets secondaires suite au vaccin. Et donc ça, c'est, je parle de tous les vaccins d'une manière générale. Et c'est assez effrayant d'imaginer qu'en fait, on a que 10% qui sont pris en compte. Et en plus, quand il y a le vaccin COVID qui est sorti, on a vu un énorme montée de ces effets secondaires annoncés à Swissmedic. Après, on peut argumenter plus de gens étaient informés qu'il y avait ce système de déclaration. Et puis, on a donné à plus de monde qu'on a donné d'autres vaccins. Je veux dire, on a donné le vaccin contre la grippe à peut-être 2 millions de personnes en Suisse, mais on n'a jamais donné un vaccin à 7-8 millions de personnes. Donc, il y a des argumentations là, mais Swissmedic, en tout cas, ils ont admis en septembre 2020 voilà, qu'il n'y a que 10% des effets secondaires suite au vaccin qui sont annoncés.
Oui. Alors là, pour le COVID, en 2021, j'avais les chiffres, c'était une année normale, Swissmedic recevait 200 dossiers d'effets indésirables, 200, et puis l'année du vaccin COVID, on est monté à plus de 11 000 dossiers. Voilà. Oui. Puis au niveau du nombre d'injections, si on prend en compte le vaccin de la grippe, tous les vaccins infantiles, en termes de doses, on aurait peut-être dû doubler, mais pas en tout cas faire x50. Ça montrait qu'il y avait un problème. C'est vrai que c'est un problème qui n'a pas du tout été médiatisé.
Non, et puis c'était minimisé dans le sens que c'est clair au début, la vaccination contre le COVID ciblait les gens âgés. Donc, ils peuvent souvent dire que, en fait, c'est des gens âgés, qui sont des polymorbides, donc c'est normal. Mais c'est ironique parce que c'est exactement, on voulait les protéger contre le COVID, qui touchait quand même principalement les gens âgés. Dans ce cas de COVID, on est prêt à fermer toute la société pour les protéger, mais par contre, quand ça vient en vaccin, c'est pas grave s'ils meurent après le vaccin. C'était un double discours qui n'avait vraiment pas de sens. Mais voilà, c'est malheureusement, moi, dans mon expérience personnelle avec les gens qui ont des enfants autour de moi, parce que je précise, moi, j'ai pas d'enfants, mais les gens autour de moi qui ont des enfants, qui ont des effets secondaires suite au vaccin, ils vont même pas faire le lien. Leur enfant pouvait être en très bonne santé avant le rendez-vous chez le pédiatre, zéro problème, ils reçoivent un vaccin 5 en 1, et 3 semaines, 4 semaines plus tard, ils sont à l'hôpital pour une pneumonie super grave, ou même des convulsions, des épilepsies, des problèmes comme ça, ils ne vont jamais faire le lien. Et le médecin lui-même ne veut pas forcément faire le lien, les infirmières ne vont pas forcément faire le lien, et il n'y a pas une envie de faire le lien. Il faut dire qu'un médecin, et c'est rien contre les médecins, je comprends qu'ils sont dans une situation vraiment très, très mal à l'aise, pas confortable vis-à-vis des vaccins. Mais s'ils admettent qu'eux, ils ont préconisé quelque chose qui fait du mal à votre enfant, sur sa conscience, c'est pas super. Donc, je pense qu'il y a une culture de minimiser ou d'ignorer les effets secondaires qui puissent arriver après un vaccin. Et ça, j'ai déjà pu percevoir moi-même avec des enfants qui ont été très bien. Et puis soudain, après un vaccin, ils sont hospitalisés, que ce soit, comme je dis, épilepsie ou... C'est pas des choses légères. Je veux dire, il y a très peu de monde, à ma connaissance, qui vont à l'hôpital ou qui vont faire l'effort d'annoncer un effet secondaire si c'est juste une petite température ou du mal au bras. Mais par contre, les effets secondaires qu'on est le plus au courant, qu'il y a plus de littérature dans l'historique, c'est des problèmes neurologiques.
On va arriver, je pense, à la conclusion. Je ne sais pas si tu avais encore des informations à nous transmettre sur ce sujet et puis peut-être nous donner aussi des références pour, je ne sais pas, nous dire qu'on sortira ton livre.
Alors, oui, volontiers. Bon, merci pour le petit coup de pub. Mon livre, donc, ça s'appelle... Malheureusement, c'est en anglais. Hein. Je suis anglophone, du coup, je l'ai écrit en anglais. Puis la plupart des recherches que j'ai faites, c'est en anglais. C'est The Ultimate Vaccine Timeline, qui va sortir en avril. Donc, il est disponible sur Amazon. Et là, c'est vraiment un document qui plonge dans l'historique donc des vaccins, que ce soit aux États-Unis ou en Suisse, et l'industrie pharmaceutique. Parce que dans mes recherches, je trouvais que c'était quelque chose qui manquait, en fait. Comme j'ai dit, il y a ce livre excellent de vaccins, vaccination, la grande désillusion de Dr. Susan Humphries, qui était un néphrologue, qui est un des seuls que j'ai trouvé qui plonge vraiment dans l'historique. Donc voilà, j'ai voulu sortir quelque chose qui était très... Je dirais, c'est pas du prose, hein. C'est voilà la date, qu'est-ce qui s'est passé. Là, la date, qu'est-ce qui s'est passé. De manière très, très neutre, et puis pour les gens puissent faire leur propre hypothèse, ou pour leur propre opinion, excusez-moi. Donc ça va sortir, en avril. Avec Réinfo Santé, suite à la demande aussi de nos membres, on va créer une page dédiée au sujet des vaccins, donc y compris le vaccin contre le polio, qui va sortir normalement d'ici la fin du mois. Donc ça va se retrouver sur réinfosanté.ch. Et une chose que je voulais juste mentionner en plus, c'est la contamination des vaccins, y compris le vaccin polio. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, dans les années 60, quand il y a ce vaccin sur le polio qui était commercialisé au début, il y avait un scientifique américain qui s'appelait Dr. Bernice Eddy, qui travaillait pour les National Institutes of Health, donc je ne sais pas l'équivalent en Suisse, mais c'est un des plus grands de... institutions scientifiques dans le monde entier, pas juste les États-Unis. Elle a vu qu'il y avait, elle avait pris le vaccin de Salk, donc l'inactivé, elle a injecté des singes, puis elle a vu qu'il y avait des singes qui étaient paralysés par la suite, puis elle a découvert ce qui s'appelait le SV40, donc le Simian Vacuolating Virus 40. Ça veut dire qu'ils ont trouvé 39 avant, et ça c'était le SV40, et c'était reconnu et découverte d'avoir des propriétés oncogènes, donc qui pouvaient générer des tumeurs, des lymphomies, des mésothéliomes. Et du coup, elle a voulu lancer l'alerte et puis on l'a fermé, on a supprimé sa possibilité d'annoncer ça au public. Finalement, c'est le scientifique de Merck qui a relevé ça. Et après avoir donné ces vaccins à plus de 90 millions d'Américains, ils ont fait en sorte de purifier pour que ça soit plus dedans. Il y a d'autres problèmes de contamination, que ça soit aussi, on parlait d'ingrédients qui sont conçus et mis exprès dedans, donc aluminium, etc. Mais il y a ce problème de, quand on parle de virus et quand on parle de vaccin, on parle automatiquement de cellules, que ça soit humain ou animal, parce que pour propager les virus, on a besoin de cellules. Et pour le cas du polio, on a sacrifié, je ne sais pas combien de milliers de singes pour créer ce vaccin polio, parce que c'était créé sur les cellules de rein de singe. Et ça pendant longtemps. C'est plus le cas maintenant. Il y a certains vaccins qui utilisent encore, c'est ce qu'ils appellent les vero cells. Donc vero, ça veut dire d'origine de singe. Mais il y en a aussi qui sont à base de cellules insectes dérivées par la biotechnologie, donc totalement synthétiques. Et il y a toujours un risque de contamination dans le processus de fabrication. Maintenant, les fabricants, ils vont faire un maximum qu'ils peuvent pour réduire la contamination. C'est pour ça qu'ils rajoutent aussi des antibiotiques ou des antimicrobiens, comme à l'époque le mercure, ou maintenant on utilise plutôt antibactériennes, pour précisément limiter ces contaminations. Mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des contaminations qui peuvent se faire. Et comme on a pu voir avec le vaccin COVID, ce SV40 est revenu dans le discours parce qu'on a trouvé des traces de SV40 promoters qui sont utilisés maintenant dans la biotechnologie, dans le vaccin contre le COVID. Donc, ça mérite, à mon avis, une reconsidération non seulement du vaccin, mais aussi du process de fabrication, et ça c'est pour tout, et d'essayer de simplifier et pas de combiner tous ces vaccins pour laisser un vrai choix aux consommateurs, qui n'est pas le cas actuellement, on n'a pas un choix.
Ah, Maëlle, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, parce qu'en parlant de ces cellules qui sont nécessaires à la fabrication des vaccins, c'est vrai qu'à partir du moment où le Covid est arrivé, moi j'ai vu plusieurs articles, plusieurs vidéos qui disaient qu'on utilisait des fœtus humains pour réaliser des vaccins, composer des vaccins. Est-ce que c'est aussi des versions que vous avez entendues, Chaz ?
Alors oui, maintenant pas pour le vaccin Covid, Ça circulait comme quoi on utilisait des cellules à base de fœtus abortés. Mais dans, en tout cas, dans ma recherche, il n'y a pas d'évidence de ça pour les vaccins COVID. Par contre, oui, ça existe pour d'autres vaccins. Je vais juste checker, mais je ne pense pas que c'est tellement le cas pour le vaccin contre le polio. Par contre, pour la rougeole, donc le ROR, le triple là, ça c'est définitivement, ça utilise donc Wistar Institute 38. Donc c'est une ligne de nouveau de cellules à base de fœtus. Donc c'est tout à fait un vrai problème. Après, il y a deux discours, ceux qui vont défendre les vaccins, ils vont dire qu'il y a zéro problème avec l'intégration, il n'y a pas d'intégration possible dans le génome humain, etc. Mais la vérité, c'est ils ont pas fait ces checks. Vous regardez sur n'importe quelle notice d'emballage pour un vaccin, et c'est toujours marqué que ce vaccin n'a pas été checké pour voir sa génotoxicité, voir sa carcinogénicité, pour voir s'il peut créer un cancer, et l'impact sur la fertilité. Certains vaccins font des études sur les rats pour voir les impacts sur, sur la fertilité, genre Boostrix, par exemple, qu'on donne aux femmes enceintes, mais c'était contrôlé sur 44 rats, sauf erreur. J'ai fait la demande au Swissmedic pour avoir accès à ces documents. C'est clair que même le Vatican, apparemment, a dit qu'il n'y a pas de problème à utiliser des cellules à base de fœtus avorté parce que c'est pour le bien de la population, c'est les vaccins, etc. Voilà. Okay. Mais ça reste quand même une raison pour laquelle certaines refusent, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des cellules humaines, et puis on ne sait pas l'intégration potentielle dans l'humain.
Et j'avais une question encore. Donc, les vaccins ont une certaine composition. Et quelle est la marge de manœuvre des fabricants pour modifier en cours de route la composition de ces vaccins, donc mettre plus d'adjuvants, moins d'adjuvants, sans repasser par tous les essais cliniques?
Alors, normalement, ils ne devraient pas faire des grands ajustements. Je ne sais pas exactement s'ils ont un seuil et quel est ce seuil, mais on peut voir, je prends l'exemple de vaccin COVID, parce que ça, on voit qu'ils changent un peu la formule sans devoir passer par les essais cliniques. Et là, ils vont justifier que tout est le même, c'est juste le code. Donc, qui change un peu, mais ça n'a pas d'impact parce que tout le reste reste le même. Maintenant, je veux dire, les boîtes pharmaceutiques, ils ont quand même un intérêt. S'ils changent un peu la formulation, ça permet peut-être de remettre un brevet parce que c'est assez différent. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un vaccin ROR. Si je ne m'abuse pas, je vais juste chercher, excusez-moi, une petite documentation derrière moi. Une seconde.
Donc, tu cherches.
Le vaccin ROR.
Je rajoute que j'ai entendu que le nouveau vaccin COVID, donc c'est quelqu'un, une amie, le père d'une amie qui a été chez son médecin, et son médecin lui a dit, maintenant, avec le nouveau vaccin COVID, la nouvelle version, eh ben, ils ont moins dosé, donc vous n'aurez plus d'effets indésirables. Donc, c'est assez. Donc, quelque part, c'est un peu l'aveu qu'ils ont remarqué qu'ils avaient surdosé les premières versions.
C'est fort possible. Je veux dire, quelles sont les choses qu'ils ont changées spécifiquement? Ça, il faudrait regarder chaque marque. Mais je peux prendre un exemple de ROR, si j'arrive à le trouver. Il y a eu un changement. Pendant longtemps, on utilisait le MMR2 de Merck. Et puis après, on a utilisé le MMR Vax Pro. Et la différence est seulement le type d'albumine. Merci. qui a changé, parce qu'avant c'était dérivé d'animaux et après c'était dérivé d'humains, mais génétiquement modifié et du coup breveté par une société anglaise. Et ça, c'était la seule différence dans la formulation du vaccin. Maintenant, ils ont quand même dû passer, sauf erreur, par un réenregistrement auprès de Swissmedic, parce que c'était quand même un produit avec un nom différent. Par contre, ils n'ont pas dû faire les essais cliniques comme on entendait ou comme on pourrait imaginer, parce que c'était à base d'un produit qui était déjà bien connu. Je veux dire, le ROR, MMR2, ça existe depuis 1979 en Suisse, donc il a une longue histoire.
On arrive déjà au niveau du temps à la fin de l'émission. C'était passionnant, hein. Je ne pensais pas qu'on en durait autant longtemps. Merci beaucoup, Chaz, pour toutes ces informations incroyables. Et puis, on se réjouit de lire ton livre. Je ne sais pas si encore Amal ou Pascal avaient encore une question, une remarque.
Ça montre vraiment la complexité des questionnements.
Ah, c'est clair que il faut prendre le temps nécessaire pour plonger dans ce sujet qui est quand même important et moi je trouve hyper intéressant. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut juste vite dans 2 heures comprendre. C'est malheureusement peut-être c'est conçu pour ça, pour que les gens ils aient pas l'intérêt de plonger plus profondément puis du coup juste faire confiance aux autorités puis aux médecins. Mais les gens que je connaisse qui ont touché ce sujet, bah ils passent des années hein, dessus.
On va remercier Chaz pour cette soirée et puis on va se laisser comme ça pour la suite. Un grand merci à vous trois, à Pascal, à Maël et Chaz. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 19h. Abonnez-vous à la newsletter pour être informé de quoi on va traiter la semaine prochaine. Et puis, on se réjouit de vous revoir. Une belle soirée à vous. Au revoir.
Bonne
au
soirée
revoir.
À tous.
Merci, au revoir. Au revoir.
Accusés de fournir des informations de qualité et ayant le moyen d'en faire la preuve, ils émettent sans cesse pour ceux qui souhaitent les entendre. Pour subsister, ils emploient leurs nombreuses compétences. Quand l'État ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, Radio Libre.